Plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui avec la Vierge Marie, mère du Verbe, reine des apôtres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Reine des apôtres, parce que elle est là, bien sûr, lorsque Jésus, le Fils de Dieu, s'incarne, le Verbe est là, présent dans la chair, et que le Rédempteur, jour après jour, vit sa vie dans la divine volonté, et qu'elle est là, elle est l'aide, la nouvelle Ève, l'aide du nouvel Adam, et qu'elle participe pleinement, comme créature immaculée, à la vie du Rédempteur, à l'offrande, le Fils de Dieu qui se livre en rançon pour la multitude, et qui est aussi la plénitude de la révélation. Voilà qu'en elle, dans son cœur et dans sa chair, elle porte la lumière du monde, celui que le peuple d'Israël attendait, celui qu'elle attendait comme fille d'Israël, et puis elle porte celui que tout homme, toute femme, ici-bas, cherche, plus ou moins comme un tâton, c'est lui, Jésus, que Marie nous offre, qu'elle porte en elle, qu'elle mûrit en elle, qu'elle fait naître, qu'elle accompagne de tout son amour, de toute sa foi, jour après jour, dans sa petite enfance, son adolescence, sa vie publique, à la croix, à la résurrection. Et pendant ces 50 jours jusqu'à la Pentecôte, elle est là, au Cénacle aussi, recevant avec les apôtres cet Esprit Saint. Et elle va accompagner l'Église dans son cheminement. Elle est membre suréminent, comme dira le Concile, de l'Église. Elle est mère de l'Église, reine des apôtres. Et voilà pourquoi je vous dis ça, parce que je vous parlais de la révélation divine, Dieu qui se révèle dans le temps, dans l'histoire, et avec des étapes successives et qui culmine évidemment en la personne de son Fils et en la personne du Saint-Esprit. Descend du Verbe fait chair, Jésus nous sauve, Jésus nous restaure, Jésus instaure et inaugure le règne de la divine volonté, vie nouvelle en Jésus. Mort et ressuscité pour nous, il ne pouvait pas envoyer pleinement le Saint-Esprit avant d'être glorifié. Et voilà que le salut est accompli, et que nous pouvons, grâce au Saint-Esprit, désormais être pleinement christifiés. C'est l'Esprit Saint qui va puiser, comme dira Jésus lui-même dans l'Évangile selon saint Jean, « Il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. » Autrement dit, le Saint-Esprit va déverser en nous tout ce dont nous avons besoin pour que notre vie soit éminemment chrétienne, c'est-à-dire christique, c'est-à-dire la vie de Jésus en nous, voilà, tout simplement. Il est le Père des pauvres, relatif au Père et au Fils, l'Esprit Saint. C'est le Père des pauvres. Et en se donnant tout entier, je ne vais pas refaire les catéchèses sur le Saint-Esprit, mais c'est essentiel de comprendre que le Saint-Esprit va nous configurer à Jésus. Il va nous donner d'être unis à Jésus dans tous nos actes, nos pensées, notre quotidien. Pour que ce soit Jésus lui-même qui s'empare de nous, la vie de Jésus. Il n'y a pas de sainteté, diront tous les saints, en dehors de ce passage par l'humanité sainte de Jésus. Pas de vie chrétienne en dehors de l'humanité sainte de Jésus. On ne peut pas être chrétien en mettant de côté la nature humaine de Jésus, son humanité sainte. On n'est pas dans des bulles de spiritualité qui seraient déconnectées de l'humanité de Jésus. Non, ça n'existe pas dans la vie chrétienne. C'est donc un passage obligé pour vérifier la vérité, la véracité de notre vie chrétienne. Comme les apôtres, il y a 2000 ans, ont vécu avec lui, ils ont fréquenté Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection. Judas va abandonner son poste, il sera remplacé par quelqu'un qui était là dès le début, depuis Jean-Baptiste, la prédication au Jourdain, dans sa vie, la vie de Jésus, qui a participé à la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et voilà que ce Jésus est le Verbe, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu de leurs yeux. C'est le Verbe qui s'est manifesté. Et voilà qu'il y a cette période tout à fait particulière qui, dans l'ordre de la révélation divine, va passer de Jésus aux apôtres. Ils vont recevoir, en fréquentant Jésus, ses paroles, ses gestes, en vivant avec lui, ils vont être enseignés par Jésus, par l'Esprit-Saint. Ils vont recevoir en eux la plénitude de la révélation. Il y aura donc cette période tout à fait particulière pendant laquelle Jésus et les apôtres seront ensemble. Où les apôtres, encore une fois, vont recevoir cette révélation. Jésus va vers le Père, il y a le mystère de l'Ascension. Il y a la Pentecôte, où désormais, Jésus ne sera plus visible comme avant, ne sera plus touchable comme avant, mais rempli du Saint-Esprit, tant qu'ils sont encore sur la terre, ces apôtres, ils continuent à recevoir l'inspiration du Saint-Esprit, les révélations de l'Esprit-Saint sur tout le mystère de Dieu qu'ils sont appelés non seulement à garder, mais à transmettre. On dira, l'enseignement de l'Église le dit, le catéchisme le dit, c'est à la mort du dernier apôtre que la révélation est close. Pourquoi ? Parce que tout ce dont les générations successives devront croire, tout ce que les générations successives devront croire, est gardé dans ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Saint Paul dira à Timothée, garde le dépôt de la foi. Alors le dépôt, évidemment, ce n'est pas simplement quelque chose qui est immobile dans un coffre. Non. C'est la tradition vivante, le mystère de Dieu qui est vivant, trois fois saint. C'est le mystère de Jésus, mort et ressuscité. C'est le mystère de Dieu, la Trinité. C'est le mystère de Marie, tout le mystère de Dieu, de tout ce que nous croyons dans le credo. Voilà que dans cette période tout à fait particulière, qu'on appelle la période apostolique et post-apostolique, voilà la période apostolique, c'est les apôtres, gardien de la véracité et de l'amplitude de la révélation divine. Alors bien sûr, ils seront mortels, ces apôtres. Mais avant leur mort, ils vont transmettre. Remarquez bien cette transmission, cette révélation entre Dieu et les apôtres. L'Esprit-Saint est donné. Les apôtres transmettent oralement, prédication, enseignement, gestes, tous les miracles et les signes qui accompagnent la prédication apostolique pour que les gens croient, pour que les cœurs soient touchés, pour que les cœurs, comme à la Pentecôte, disent à Pierre, mais que devons-nous faire pour être sauvés ? Car voilà que Jésus n'est plus là comme avant, on peut le toucher, on peut aller le voir, on peut... Non. Mais il est si fortement présent dans les cœurs, dans ces cœurs remplis du Saint-Esprit, que par la bouche des apôtres, et même par l'ombre de Pierre, des personnes, des malades seront guéris, des gens se convertissent, et des gens se mettent à adhérer à la foi en Jésus. Vrai Dieu, vrai homme, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous, c'est le noyau de la foi. Les Juifs, et puis les païens, les Grecs, qui croyaient en rien du tout, mais qui ont un cœur, bien sûr. Un cœur capable de recevoir le salut, de recevoir la bonne nouvelle, de recevoir à travers la prédication et les enseignements des apôtres, l'Esprit-Saint qui va les convertir et les faire advenir à la foi, à la vie nouvelle. Alors on va les baptiser, ces nouveaux, qu'ils viennent du judaïsme ou du paganisme, on les baptise, on les immerge dans la vie de Dieu, dans la vie de la Sainte Trinité. Et voilà que dans cette période, avant la mort des apôtres, qui vont mourir les uns après les autres, il y a ce processus de transmission, de tradition, de succession. Il y aura les successeurs des apôtres, qui vont bien sûr, il y a des apôtres qui sont encore vivants, des successeurs qui sont déjà là, et puis à un moment donné, le dernier, vraisemblablement Saint Jean, et là il n'y a plus d'apôtres sur la terre, mais il y a que des successeurs. Il y a donc un changement d'étape. Et que vont faire les successeurs des apôtres? Eh bien, ils vont transmettre ce qu'eux-mêmes ils ont reçu. Ils ne vont pas inventer. Ils vont transmettre la révélation divine qui est close. Et il n'y a plus rien à rajouter. Même si tout est à expliciter. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique dans le paragraphe 66. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais, et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la prochaine étape, la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Par exemple, les dogmes. Je prends les dogmes mariaux, les dogmes christologiques. Bien sûr que Jésus est vrai Dieu, vrai homme. D'accord? Mais pour expliciter un si grand mystère, il faut du temps. Pour expliciter le mystère de l'Immaculée Conception, il faut du temps. Ce n'était pas donné, c'était déjà là. Car elle est Immaculée Conception, Marie. Ça fait, voilà. Et puis elle a vécu le mystère de son Assomption avec son corps et son âme au ciel. Mais il faudra du temps, et puis que ce soit la période propice aussi, le développement théologique. Il faudra la contemplation de milliers de personnes, de chrétiens, qui vont scruter non seulement les Écritures, mais le mystère de Dieu, et donc qui vont petit à petit, à travers des écrits aussi, permettre le développement du dogme. Mais l'Immaculée Conception, ce ne sera pas une invention au XIXe siècle, non. C'est déjà là. C'est déjà dans le dépôt de la foi. Les apôtres, sans peut-être même formuler avec leurs mots à eux de l'époque, ils y croyaient. Eh oui. Il n'y avait qu'à regarder Marie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, il y a cette révélation divine qui est close. On ne rajoutera rien. On ne rajoutera rien. Mais on développera, on dépliera le trésor dans le temps pour que la vie, dans la vie de l'Église, les membres de l'Église soient pleinement, de plus en plus, j'allais dire, christifiés. L'Église, c'est le Christ répandu et communiqué, disait je ne sais plus qui. Voilà. Bossuet, peut-être. C'est-à-dire qu'il faut que tous les fidèles de toutes les générations qui viennent après la Pentecôte, après les apôtres, eh bien accèdent au trésor, à la foi catholique, à la foi apostolique. Notre foi chrétienne, elle est apostolique. Ça veut dire quoi? Mais c'est la foi des apôtres. C'est magnifique de penser qu'au début du troisième millénaire, nous avons la même foi que Pierre, André, Jacques, Jean. Et je vais vous dire, on connaît peut-être même mieux Jésus que parce qu'il y a eu justement ce développement. Même si l'essentiel, l'essence même du mystère, on y a accès comme eux, par la foi. Bien sûr, je vous parlerai de la foi, justement. Et puis, je vous parlerai aussi de ce qu'on appelle les révélations privées. Là, en ce moment, je suis en train de vous parler de la révélation publique. Il n'y aura plus de révélation publique. Voilà. Je ne vais pas m'embarquer dans cette thématique que j'aborderai la semaine prochaine, des révélations privées, je reviens sur la révélation publique, divine, qui est close avec la mort du dernier apôtre et qui doit donc se transmettre. Le catéchisme nous dit « Le Christ Seigneur en qui s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. » La transmission de l'Évangile. Attention, l'Évangile, on voit tout de suite la Bible, enfin le papier. La transmission de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, selon l'ordre du Seigneur, s'est faite de deux manières. D'abord, oralement. Il n'y a qu'à aller un peu dans des pays où il y a des grandes lacunes en termes de lecture et d'écriture pour se rendre compte de la puissance de la tradition orale. Ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais été, par exemple, à Madagascar. D'entendre à la messe tous les fidèles chanter les psaumes, ils les connaissaient par cœur. Ils ne savaient ni lire ni écrire, mais ils connaissaient les psaumes par cœur. Et ils les chantaient comme ça, c'était magnifique, à plusieurs voix en plus. Oui. Oralement, transmission de la bonne nouvelle par la bouche des apôtres, la bouche, la voix, la parole, qui vient percuter dans la puissance du Saint-Esprit les cœurs. Oralement par les apôtres qui, dans la prédication orale, dans les exemples aussi, bien sûr, et les institutions, transmirent soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, par écrit. Par ses apôtres ou par des hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message de salut. Transmission orale et transmission écrite. Les écrits viennent après l'oral. C'est-à-dire qu'il y aura sans doute quelques feuillets, et puis, assez tardivement, il y aura par exemple la première aux Thessaloniciens, c'est en l'an 50 à peu près. Ça fait quand même 17 ans que Jésus est ressuscité. 17 ans, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 17 ans? Prédication orale, transmission orale, commencement de l'institution, gestes, paroles, transmission, et puis certainement quelques petits écrits de ci, de là. Et puis ça va commencer à... On parlera de l'écriture, mais ça va commencer à... On va commencer à lire les lettres de Saint Paul dans les églises, on va commencer à lire justement les écrits des apôtres, etc. Soit des apôtres eux-mêmes, soit de leurs secrétaires, des hommes, comme dit le catéchisme, des hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message de salut. On pense à Saint Luc, par exemple. C'est une période passionnante, qu'on appelle la période de l'Église primitive. Saint Luc, ce brave médecin, auprès de Saint Paul, qui ira voir Saint Jean, qui ira voir la Vierge Marie. Qui... On est dans une période, j'allais dire, où Jésus est ressuscité, où on a reçu l'Esprit Saint. Il n'est plus là de la même manière qu'avant, mais ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et tout ce bouillonnement, il faut le transmettre, c'est trop fort. Avec ce passage étonnant pour les Juifs, de passer du temple de Jérusalem, du culte sacerdotal, avec des animaux, avec des égorgements d'animaux, avec tout un système très perfectionné, très fonctionnel, à l'Eucharistie. C'est un gap, comme on dit, impressionnant, que seul l'Esprit Saint peut faire dans le cœur de ceux, par exemple, qui étaient prêtres juifs et qui devinrent chrétiens pour intégrer le sacerdoce nouveau. Donc il y a tout ce basculement, ce passage à l'ère nouvelle, la vie dans l'Esprit Saint, qu'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, avec toutes les conséquences très incarnées, c'est-à-dire que c'est l'Église qui commence, l'Église de Jésus-Christ, une sainte catholique et apostolique. Pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. En effet, la prédication apostolique, qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, devait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Si la bonne nouvelle est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle à annoncer à toutes les générations futures. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle à annoncer que Jésus mort et ressuscité pour nous, pour notre salut. Et en accueillant dans la foi ce Jésus, en nous faisant baptiser, immerger dans la vie nouvelle, eh bien on entre dans la vie. Et c'est ça. En restant fidèle à l'enseignement des apôtres, à la prédication apostolique. Cette transmission vivante, accomplie dans l'Esprit Saint, est appelée la tradition avec un grand T. En tant que distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle. Vous avez bien compris qu'il y a à la fois l'écrit et l'oral qui sont intrinsèquement liés parce que ce qu'on prêche à l'oral et ce qu'on met par écrit, c'est la même chose. Par elle, cette tradition vivante, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. L'enseignement des saints pères atteste la présence vivifiante de cette tradition dont les richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Le catéchisme nous parle de ce rapport entre la tradition et l'Écriture sainte. Elle nous dit, elles sont reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent d'une source divine identique. Elles ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. L'une et l'autre rendent présent et fécond dans l'Église le mystère du Christ qui a promis de demeurer avec les siens pour toujours jusqu'à la fin du monde. Il y a deux modes distincts de transmission. La Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin est consignée par écrit. C'est une formule que vous devez connaître par cœur, chers amis auditeurs. C'est quoi la Sainte Écriture? Si vos enfants vous demandent aujourd'hui, c'est quoi la Sainte Écriture? Déjà, vous serez bluffé par la question, mais voici la réponse. C'est la parole de Dieu, en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Magnifique. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs, pour que, illuminés par l'Esprit de vérité en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Par exemple, certains pourront me dire « Mais oui, mais c'est où dans la Bible l'Assomption ? C'est où dans la Bible l'Immaculée Conception ? C'est où dans la Bible ?» Pour nous, catholiques, il n'y a pas de sola scriptura, qui d'ailleurs n'est pas dans la Bible elle-même, cette expression. Parce que la scriptura, la Sainte Écriture, elle a comme frère ou sœur de sang la tradition. Il y a donc des choses qui se transmettent oralement et qui sont 100% conformes à la foi 100% conformes à la révélation divine et qui ne sont pas mis par écrit, mais qui sont vécus par la communauté chrétienne, par l'Église, qui transmettent oralement, mais qui ne mettent pas tout par écrit. Et c'est pas un problème. Mais attention, il y a le magistère qui justement est constitué des successeurs des apôtres et qui ont un charisme d'interprétation pour dire que ce qui est dit ou écrit est conforme ou non à la véracité de la révélation divine. C'est bien d'avoir un gardien. Parce que l'homme est faible. Et il peut partir dans le bleu des interprétations des Écritures. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup battu à coups de versets bibliques dans l'histoire. Avant même la naissance du protestantisme, on s'est beaucoup battu à coups de Bible. Pourquoi? Parce que c'est le risque que prend Dieu en nous donnant une révélation d'une telle puissance. C'est la faiblesse de l'être humain qui peut pris personnellement peut se tromper. Il y a eu beaucoup de bagarres sur les versets, sur et c'est la naissance des conciles pour dire voilà, est-ce que ça c'est conforme ou pas à l'orthodoxie, c'est-à-dire est-ce que c'est conforme à la révélation divine ou pas? Est-ce que c'est essentiel, pas essentiel? La circoncision, ça touche pas la foi. C'était un signe de l'Ancien Testament qui marquait dans la chair l'appartenance au peuple de Dieu. Maintenant, c'est le baptême. Donc on comprend les choses dans l'Esprit Saint pendant ce temps apostolique qu'on transmet fidèlement aux successeurs qui eux-mêmes, de génération en génération, d'une manière ininterrompue, devront garder le dépôt de la foi. Comment est-ce qu'on garde? C'est en l'enseignant, c'est en le transmettant, c'est en le vivant, évidemment. Et puis, de temps en temps, il y a un concile qui va dénoncer telle hérésie. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a telle ou telle hérésie? C'est parce qu'on est sûr de ce qui est vrai. On est sûr de la véracité de la révélation divine. Donc, si quelqu'un comme Arius s'amène et dit non, non, Jésus est un super homme, mais il n'est pas complètement Dieu. On dit, bah, désolé, Arius, t'es un hérétique. Tu te trompes complètement. T'es peut-être quelqu'un de très gentil, mais sur la doctrine, t'as tout faux. Voilà. Et pourquoi se bagarrer sur la doctrine? C'est parce que c'est pas pour avoir raison, c'est pas pour. C'est parce que la vérité du credo ne s'arrête pas à l'énoncé. Ce ne sont pas simplement des concepts. Ça rejoint la réalité. Et que la réalité est si belle, si profonde, si sérieuse, la réalité, c'est le mystère de Dieu. Et donc, si vous voulez croire que Jésus n'est qu'un homme et non pas le Fils de Dieu, c'est gentil, mais ça on n'accède pas au salut avec une foi pareille. Et c'est de ça dont il s'agit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que connaître Dieu, ça fait vivre. Connaître le vrai Dieu, ça fait vivre. Ça rend heureux. Ça donne la vie. Et connaître un Dieu un peu trafiqué, ça s'appelle. Ça donne pas la vie. Vous voyez donc que l'étendue de la splendeur de la révélation divine, gardée fidèlement par l'Église, transmise fidèlement par le magistère de l'Église, même si évidemment, à l'intérieur de l'Église, pris individuellement, on peut avoir des hésitations, on peut avoir des difficultés, on peut même se tromper. Mais pris collectivement, dans son magistère, l'Église ne s'est jamais trompée. L'enseignement de l'Église est fiable à 100% en ce qui concerne la foi et les mœurs. Pourquoi? Parce que sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, les apôtres et les successeurs des apôtres transmirent fidèlement, oralement et par écrit, ce qu'ils avaient à transmettre. En ce qui concerne notre salut, l'interprétation de l'héritage de la foi, c'est le depositum fidei, c'est un mot latin qui veut dire le dépôt de la foi, l'héritage sacré, contenu dans la sainte tradition et dans l'écriture sainte, a été confié par les apôtres à l'ensemble de l'Église. En s'attachant à lui, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, si bien que dans le maintien, la pratique et la confession de la foi transmise, s'établit entre pasteurs et fidèles une singulière unité d'esprit. Les successeurs des apôtres ont un charisme de gardien de la vérité. Mais c'est à toute l'Église tout entière qu'est confiée la révélation divine, bien sûr, parce qu'encore une fois, il s'agit de vivre de la vie de Dieu. Non pas tant de tout savoir, mais de vivre de Dieu, du vrai Dieu révélé en Jésus, en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, unique Sauveur, qui a répandu son Saint-Esprit. Alors voilà, frères et sœurs, tous les fidèles ont part à la compréhension et à la transmission de la vérité révélée. Ils ont reçu l'onction de l'Esprit Saint qui les instruit et les conduit vers la vérité tout entière. L'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi et manifeste cette qualité par le moyen du sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, lorsque des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, il apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Il n'y a pas d'un côté les évêques et d'un côté le peuple. On est tous ensemble dans le peuple de Dieu. Et on a tous reçu l'Esprit, l'Esprit de vérité. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'Esprit de vérité sous la conduite du magistère sacré, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément en l'interprétant comme il faut et dans sa vie la met plus parfaitement en œuvre. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, l'intelligence des réalités comme des paroles de l'héritage de la foi peut croître dans la vie de l'Église, et je terminerai par là. Premier point, par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur. C'est en particulier la recherche théologique qui approfondit la connaissance de la vérité révélée. Le dépôt est clos, mais comme c'est vivant, ça se développe. Le mystère de Marie, par exemple, aboutira, j'espère, à la proclamation de dogmes un jour, mais la réalité, elle est déjà là. On scrute, on creuse, on réfléchit, on prie, on contemple, on recherche. Deuxième point, par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles. Les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble. La méditation de la parole. Par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de la vérité, il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres et que toutes ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit-Saint, contribuent efficacement au salut des âmes. Le magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, il sert la parole de Dieu, mais lorsque nous parlons de parole de Dieu pour nous, c'est plus vaste que la Sainte Écriture. C'est la parole de Dieu mise par écrit, bien sûr, mais transmise oralement. Et le magistère est serviteur de ces merveilles pour les transmettre en vérité de génération en génération. Frères et sœurs, je ne sais pas si on réalise à quel point la foi est un trésor, mais en tout cas nous avons ce trésor en nous. C'est un trésor vivant que nous sommes invités à scruter, à développer en nous, la vie de Dieu en nous, à transmettre aux générations. Et remercions le Saint-Esprit pour cela. Remercions Marie pour cela. C'est elle qui permet la transmission d'une manière si belle, la vie chrétienne d'une manière si belle. Merci, frères et sœurs, d'être attentifs à ces choses. Merci pour votre présence, votre fidélité. Et nous avons Anne-Marie avec nous. Bonjour Anne-Marie.
Mathieu, s'il vous plaît, je me suis toujours posé la question et comme vous avez cité le nom d'Arius, oh, j'ai dit je vais demander au Père, mais je ne veux surtout pas choquer personne. Hein. Mm-hmm. Je me pose la question à quel moment, par rapport à la religion musulmane, à quel moment on n'a pas arrêté de leur dire, de leur préciser que chez nous, les catholiques, il y avait déjà eu des personnes, donc Arius, entre autres, qui avaient dit que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Alors, à quel moment ça a pu se passer, ça, chez les musulmans, que, bon, ça a glissé, puis ça a pris de l'ampleur, et voilà.
Ben,
on ne le sait peut-être pas du tout.
Tout de suite, c'est-à-dire que... Tout de suite, c'est-à-dire que dès la naissance de l'islam, il est clairement affirmé que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Dieu n'engendre pas.
Mais oui.
Mais oui.
Mais comment se fait-il que chez les chrétiens, bon, qu'on n'ait pas réagi plus ou qu'on n'ait pas réussi à...
Oui. Ah oui, alors ça, il faudrait regarder un petit peu plus l'histoire, mais d'emblée, si vous voulez, ça n'a pas été facile, facile, hein?
Oui, dès le début, quoi.
Dès le début, oui.
Ah oui. Bon, ben, on continue de prier.
Voilà.
Merci beaucoup, Père.
Merci à vous, Anne-Marie. Soyez
Merci,
bénie.
Au revoir.
Bonne journée. Au revoir. Voilà, est-ce que nous avons un appel, un SMS? Non. Voilà. Merci beaucoup, chers amis auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la catéchèse mardi prochain. Pour aussi, donc, mardi prochain à 17h, commencer les quatre moments magnifiques sur le tirage des saints. Je vous rappelle les quatre moments. Donc, mardi prochain à 17h, vous appellerez au 04 94 209 109 pour recevoir votre saint. Et pour aussi, si vous avez participé l'année dernière, pour témoigner de ce que vous avez vécu avec le saint que vous avez reçu. Et puis aussi, donc, mercredi et jeudi prochain, le matin, au moment des catéchèses, tirage des saints. Et puis le jeudi aussi, donc jeudi prochain à 17h, quatre moments. Si au cours de ces quatre moments, ben vous n'êtes pas disponible, ne désespérez pas, allez sur notre site internet, allez sur l'onglet contact qui se trouve en haut à droite et faites votre demande et on traitera votre demande pour que vous puissiez recevoir un saint si jamais vous avez loupé les quatre moments prévus à cet effet. Voilà. Je vous bénis, tiens, hein, voilà. Je vous donne la bénédiction du Seigneur en vous souhaitant une très belle journée à l'écoute de Radio Maria France. Dans quelques instants, la messe, la Sainte Messe à 11h de Saint-Louis d'Antin. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.